Nous avons aujourd'hui cette belle fête de Sainte Marie-Madeleine. Je pense que c'est une fête bien consolante pour chacun d'entre nous parce que nous avons tous péché, nous sommes tous des pécheurs, même si peut-être pas au point de Sainte Marie-Madeleine, ou alors peut-être on a fait pire, c'est possible. En tout cas, vous savez, dans l'Évangile, Sainte Marie-Madeleine est appelée la pécheresse. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc pas besoin de vous faire une description. Mais ce qui est consolant, c'est quand elle va trouver notre Seigneur touché par la grâce de repentir. Donc elle pleure ses péchés, véritable contrition. Et notre Seigneur lui pardonne et surtout va dire, eh bien, elle lui sera beaucoup pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. Parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Et puis si tu tournes vers elle, tes péchés te sont remis, ta foi t'a sauvé. Donc vraiment pour nous un bel exemple. Donc savoir effectivement qu'il ne faut jamais désespérer. Encore une fois, on peut avoir fait beaucoup de bêtises. En tout cas, sur cette terre, c'est toujours le temps de la miséricorde. Alors nous, avec la conférence de ce matin, qui est intitulée « Femme chrétienne » ou « Femme mondaine », eh bien nous allons aborder un peu la descente. Si je prends une image avec des activités qui peuvent se produire, bon, peut-être pas pour vous, enfin, j'en sais rien, si vous arrivez en tout cas de prendre l'avion, des longs courriers, donc il arrive un moment, vous savez, on décolle, bon, à un certain temps, on monte, et puis ensuite, l'essentiel du trajet se fait à 10 000, 11 000, 12 000 mètres d'altitude. Donc on est au-dessus des nuages, on plane. Et puis, alors là, c'est quasiment, je crois que ça doit être une loi universelle dans tous les avions, dans toutes les compagnies. 20 minutes avant l'atterrissage, on commence la descente. Donc on entend les réacteurs, ils coupent, disons, ils ralentissent les réacteurs, mais là on commence. Alors, c'est là où les oreilles commencent à se boucher, enfin bref. Et puis 10 minutes avant, on se prépare à l'atterrissage. Alors veuillez redresser votre siège, mettre votre... Enfin, il y a peut-être des hôtesses de l'air parmi vous, j'en sais rien. En tout cas, c'est le truc par cœur, on connaît tout par cœur. Bref, et bien là, pour l'instant, vous êtes sur un petit nuage. Hein. Et puis maintenant, à partir de ce matin, on va commencer la descente. Donc c'est là où les oreilles vont commencer à siffler. Parce qu'il y a peut-être certaines vérités ou certaines choses qu'il va falloir dire. Parce qu'il ne faut pas rester sur un nuage. Après, vous allez rentrer dans votre vie quotidienne. Il y a des choses, il y a peut-être des résolutions à prendre. J'ai l'impression qu'on a commencé à vous en parler. Non, on va vous en parler, je crois, cet après-midi. Donc, il faut quand même atterrir. Alors, on va commencer avec cette conférence. Alors, femme chrétienne ou femme mondaine, c'est effectivement un titre un peu curieux. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une femme chrétienne? Évidemment, c'est celle qui marche à la suite de Jésus-Christ. Ça, c'est pas difficile à comprendre. Femme mondaine, c'est, on dirait, la femme du monde, mais le monde dans le sens dans lequel l'entend notre Seigneur. Quand il dit dans sa prière sacerdotale, donc c'est Saint Jean au chapitre 17, « Je ne prie pas pour le monde. Je leur ai donné votre parole, donc aux apôtres, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Saint Jean 17, 14. Donc le monde, compris ainsi, c'est l'ennemi de Dieu. Le prince de ce monde, comme notre Seigneur appelle le démon, le prince de ce monde. Donc si vous voulez, il y a vraiment une opposition entre la femme chrétienne et la femme mondaine. Donc notre but, notre but à tous, on l'a assez parlé, c'est d'être avec le bon Dieu, de vivre avec Dieu, et bien tout cela en étant, bien sûr, pour vous, une femme chrétienne. Mais, comme toujours, on a beaucoup d'ennemis. Les trois ennemis connus, bien sûr le démon, ça c'est clair. Ensuite, le monde, donc celui dont on vient de parler. Et puis la concupiscence, donc les conséquences du péché originel. Eh bien, ces trois ennemis, leur but, c'est de vous faire être une femme mondaine. Donc de vous détourner de Jésus-Christ pour vivre selon le monde. Donc ça c'est clair, il faut être réaliste. Tous ces ennemis, ils sont là pour ça. Alors cette conférence n'est pas faite pour vous dire ben, qu'est-ce qu'il faut choisir. Parce que vous avez déjà fait le choix. Donc ça, il n'y a pas le problème. Vous avez déjà choisi d'être une femme chrétienne. Donc ce n'est pas ça. Non, le but, c'est d'essayer de vous faire connaître, disons, description de nos ennemis et de leurs pièges. Les pièges, ben, pour les éviter, tout simplement. Un homme, je veux dire une femme avertie, en vaut deux. Donc savoir où sont nos pièges. Donc je parlerai essentiellement donc le danger du monde et de la concupiscence. Alors, en introduction, mais je le ferai très rapidement parce que bon, j'en ai un peu parlé, on a entendu des conférences, je pense peut-être mes confrères aussi en ont parlé, c'est toujours vous se rappeler, parce que là ça va être important pour les conclusions qu'on peut porter après, le dogme fondamental du péché originel. Ça, vous avez entendu, on est beaucoup revenu là-dessus. Parce que si vous le mettez de côté, ou vous n'y croyez pas réellement, ou bon, c'est. Dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi l'Église, ensuite, nous demande telle ou telle chose. Pourquoi faut-il lutter contre telle ou telle chose? Donc là, il faut vraiment en être persuadé de ce dogme. Bon, je ne vous le raconte pas. Donc surtout, ce qui est intéressant, c'est que même si ce péché originel a été effacé par le baptême, il en reste quand même les blessures, ce qu'on appelle les conséquences. Alors je résumerai tout simplement par un passage de Mgr Lefebvre dans son dernier livre, Itinéraire spirituel, qui était un peu son testament. Vous avez un... Il résume... Donc c'est... Bon, c'est... Voici l'enseignement de l'Église exprimé par saint Thomas d'Aquin. La sainteté originelle a été perdue par le péché du premier homme. C'est pourquoi toutes les forces de l'âme demeurent, dans une certaine mesure, destituées de leur fin propre, par laquelle elles étaient ordonnées à la vertu. Et cette destitution s'appelle la blessure de la nature. Donc notre nature est blessée. En tant que la raison est destituée de son ordre au vrai, c'est la blessure de l'ignorance. Vous voyez, notre intelligence est blessée. En tant que la volonté est destituée de son ordre au bien, c'est la blessure de malice. On se précipite plutôt vers les faux biens. En tant que la force est destituée de son ordre aux choses ardues, c'est la blessure de l'infirmité, la faiblesse, si vous voulez. Et en tant que la concupiscence est destituée de son ordre à ce qui est délectable, mesuré par la raison, c'est la blessure de la concupiscence. Dans sa première épître, saint Jean confirme cette vérité. Tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil de la vie. Ces quatre blessures touchent nos quatre vertus cardinales et ainsi provoquent en nous un désordre continuel. Sans l'intelligence de ces vérités élémentaires, on ne peut comprendre la spiritualité catholique de la croix, du sacrifice, du mépris des biens temporels pour s'attacher au bien éternel. C'est sûr, si on ne comprend pas ça, ces vérités, on ne comprend pas le reste. Pourquoi l'Église nous demande de faire pénitence? Pourquoi il faut se mortifier? Pourquoi mépriser les biens temporels, etc., etc. Les démons se servent de tout ce qui est sensible et délectable pour augmenter nos blessures. Et ça, c'est le but du démon, évidemment. Ce qui est arrivé à Ève continue d'être actuel. Sur la parole du démon, Ève a vu que le fruit était délectable. Elle dira, hélas trop tard, à Dieu, le serpent m'a trompé. D'où l'insistance de l'Église dans toute sa spiritualité de s'éloigner du monde et de son esprit et de ne rechercher que les choses éternelles à la suite de Jésus et Jésus crucifié. Hein? Vous voyez, donc bien se rappeler cela. Autrement, c'est vrai qu'on se dit, oh là là, ils sont... Tous ces prêtres, c'est des vieux jeux, etc. Ils ne comprennent rien à la vie, etc. etc. Bon, non, ben, il faut revenir à ces vérités de foi. Alors, si vous voulez, je ferai deux parties dans cette conférence. Première, la lutte contre ce qu'on appelle la concupiscence. Et deuxième partie, la lutte contre le monde. Alors, Monseigneur Lefebvre le rappelait dans Saint Jean, donc ses premières épîtres de Saint Jean, chapitre 2, verset 16. Tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et orgueil de la vie. Alors prenons chacun de ces trois points. Concupiscence de la chair, c'est comme définition, on le sait aussi, c'est l'amour désordonné des plaisirs des sens. Alors vous avez un auteur spirituel, Tancret, voilà ce qu'il dit. Le plaisir n'est pas mauvais en soi. Dieu le permet en l'ordonnant à une fin supérieure, le bien honnête. S'il attache le plaisir à certains actes bons, c'est pour les faciliter et nous attirer ainsi à l'accomplissement du devoir. Goûter le plaisir avec modération en le rapportant à sa fin, qui est le bien moral et surnaturel, n'est pas un mal. C'est même un acte bon, puisqu'il tend à une fin bonne qui, en dernière analyse, est Dieu. Bon, prenez l'exemple. Le bon Dieu a attaché un plaisir au fait de manger. Donc, avoir du plaisir quand on mange, c'est bon. Donc, vous pouvez, sans crainte, déguster un... Je sais pas, qu'est-ce que vous aimez? Un framboisier avec... un coulis de fraises nappé d'un chocolat fondant. Ah, et on commence à rêver. Bon, eh bien, si vous mangez ça avec un certain plaisir, il n'y a pas de problème. Donc, bon, on fait honneur à la maîtresse de maison et on mange. Bien. C'est pour ça, entre parenthèses, c'est terrible, mais voir des anorexiques, bon, peut-être vous en connaissez, c'était parce qu'on voit ces gens ont perdu tout appétit. Donc, pour eux, manger est une corvée. Bon. Quand on repense à ça, on se dit, oh là là, c'est vraiment terrible. Bref. Mais vouloir le plaisir indépendamment de cette fin qui le légitime, le vouloir par conséquent comme une fin à laquelle on s'arrête, c'est un désordre puisque c'est aller contre l'ordre très sage établi par Dieu. Et ce désordre en amène un autre. Quand on agit pour le plaisir, on est exposé à l'aimer avec excès parce qu'on n'est plus guidé par la faim qui impose des limites à cette soif immodérée du plaisir. Très bien dit. Donc si on reprend l'histoire, l'exemple du framboisier, eh bien l'engloutir en entier, j'ai plus faim, mais c'est tellement bon que je continue à manger. Alors là, évidemment, il y a un désordre. Puisqu'on ne va plus le manger pour se restaurer, mais... uniquement pour le plaisir. Donc là, on tombe dans le péché de gourmandise. Puis si c'est au point vraiment de s'en rendre malade, etc., ça peut être matière grave, bien sûr. Mais bon, si vous voulez, voilà comment il faut voir les choses. Alors ça vaut bien sûr pour la gourmandise, mais aussi, bien sûr, toute cette concupiscence, c'est tout ce qui concerne les sixième, neuvième commandements de Dieu. Donc tous les actes contre la vertu de pureté, pensée, désir, etc. Alors, prenons garde aussi, même dans, si vous voulez, il peut y avoir des conséquences, même dans le mariage, si on ne fait pas attention à cette concupiscence, ça peut entraîner la violation des lois du mariage, bien sûr. Et ça peut entraîner tout ce qui est l'usage, la contraception, etc., voire malheureusement l'avortement. Parce que l'enfant va être considéré comme quelqu'un qui gêne, alors on va le supprimer. Ça, c'est terrible. Mais bon, malheureusement, c'est un enchaînement et c'est attaché à ce désordre, cet amour désordonné du plaisir des sens. Alors le remède, bien sûr, c'est la mortification du plaisir sensuel, tout simplement. Et c'est saint Paul qui nous le dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 13. « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez spirituellement. » Mais si par l'esprit vous mortifiez la chair, vous vivrez. Vous vivrez. Donc le but des mortifications, précisément, de savoir dominer un peu ce plaisir, nous permet de vivre d'une manière spirituelle, donc d'éviter le péché. Alors, un remède aussi contre cette concupiscence, c'est la pratique d'une vertu qu'on appelle la vertu de tempérance. Alors disons un mot de cette vertu. Vertu de tempérance, c'est la vertu qui fait que l'on use conformément à la raison des choses qui flattent les sens. Donc effectivement, c'est la raison qui domine. Elle nous fait, cette vertu, dominer nos sens par la raison. Alors dans cette vertu, bien, on va distinguer ce qu'on appelle la chasteté qui soumet la concupiscence à la loi de la raison et dans nos divers états, état de virginité, état de mariage ou état de viduité. Parce que la chasteté existe, bien sûr, bon, c'est une vertu pour dans tous les états de vie, si vous voulez, qu'on doit pratiquer en fonction de notre état de vie. Alors, quand nous sommes célibataires, donc on appelle état de virginité, eh bien, nous sommes tenus à ce qu'on appelle la chasteté parfaite, évidemment. Et cette chasteté parfaite concerne aussi les fiancés. Donc ça, il faut bien se le rappeler, les fiancés ne sont pas unis par les liens du mariage. Donc, les fiancés n'ont pas à poser des actes qui sont permis, qui sont bons à des gens mariés, mais qui, par définition, ne le sont pas pour eux, puisqu'ils ne sont pas mariés. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'il faut savoir rappeler aussi. Donc, les fiancés sont aussi tenus à la chasteté parfaite. Alors, souvent, parce que les fiançailles, si vous voulez, qu'est-ce que c'est? C'est une promesse de mariage. Quand on se fiance, on promet à l'autre qu'on va l'épouser. Mais on ne l'épouse pas encore. On promet, et ensuite, ce temps qui reste pour les fiançailles, eh bien, reste précisément à se préparer. Se préparer à cet état de vie et apprendre à se connaître, mais en mettant, bien sûr, des règles de sécurité. Parce que, encore une fois, la concupiscence est là, donc il ne faut pas l'aviver. Donc, il faut rester très prudent. Alors, souvent, les fiancés disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec notre fiancé? Eh bien, parler des fleurs, parler... Non, bon, apprendre à se connaître, c'est vrai. Donc, il est normal que des fiancés se rencontrent, ça, c'est vrai. Mais encore une fois, je crois qu'il y a une règle très simple. Eh bien, avec votre fiancé, ne faites pas ce que vous ne feriez pas avec votre frère. C'est exactement la règle, c'est tout. Des choses que vous ne feriez pas avec votre frère, eh bien, c'est tout de suite, vous dites, bah voilà, halte, je m'arrête là, c'est tout. Bon, aller se promener, se tenir la main, bon, ça, il n'y a pas de problème. Évidemment, on le fait avec son frère. Bon, bah, dans ce cas-là, il n'y a pas de faute. Mais après, attention. Donc, il faut savoir, effectivement, être vigilant. Alors, attention, là aussi, les parents ont un devoir. Vous avez une responsabilité. Responsabilité. Il y a des gens qui sont complètement inconscients, qui disent « Oh non, il n'y a pas de problème, moi je pars en vacances, et puis ça tombe bien, il y a ma fille qui est fiancée, ben, ils ont dit ben, avec son fiancé, ils allaient garder la maison. » Bien. Alors, bref. Non, ne pas se mettre en occasion, bien sûr, de danger, de faute, ça c'est clair. Bref, donc, juste pour bien dire, effectivement, l'état de virginité, l'état de chasteté parfaite concerne aussi les fiancés. Si vous voyez, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui parce que, bon, tout le monde, enfin, les gens regardent des films et dans les films, les fiancés, ben voilà, ils se comportent comme des maris et femmes. Ben, c'est pas, non, c'est pas la doctrine de l'Église. Ensuite, cela concerne bien sûr bon, l'état de mariage. Alors, la chasteté, bien sûr, dans le mariage, qu'est-ce que ça veut dire, la chasteté dans le mariage? Ça veut dire tout simplement respecter les lois du mariage. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ne pas détourner les lois du mariage voulues par le bon Dieu. Ça veut dire ça. Donc, respecter les lois que le bon Dieu a mises dans le mariage. Et puis, l'état de viduité, c'est l'état de veuvage. Eh bien, évidemment, dans ce cas-là, on se retrouve de nouveau dans un état de chasteté parfaite. Et à la chasteté se rattache ce qu'on appelle la pudeur, qui règle les actes extérieurs capables d'exciter au plaisir des honnêtes. Vous avez aussi une vertu annexe de la tempérance qu'on appelle la modestie, donc vertu qui consiste à se maintenir dans la mesure et les limites convenables pour les mouvements intérieurs et extérieurs. Donc la modestie extérieure règle les mouvements du corps, le port des vêtements, etc. Bon, justement, la modestie, c'est celle qui va faire éviter les excès. Donc être habillé comme Marie-Antoinette, la reine, ou alors être habillé comme Cendrillon. Donc, y a quand même un juste milieu. Alors, la vertu de pudeur, bien sûr, consiste à éviter toute occasion d'impureté pour soi-même et les autres. Donc, elle comporte, cette vertu, bien une certaine réserve, une certaine retenue, une certaine modestie dans la vie tout entière, que ce soit dans les pensées, les regards, les attitudes, les tenues, les lectures, les divertissements. Donc, cette vertu de pudeur, si vous voulez, elle est la prudence de la chasteté. Je crois que c'est une très belle définition, la prudence de la chasteté. Si nous voulons rester chastes dans notre état, eh bien, nous devons avoir cette vertu de pudeur. Donc, elle consiste à prendre des précautions sans lesquelles il est pratiquement impossible de prévenir les passions désordonnées chez soi et chez les autres. Alors, la pudeur aussi, comme toute vertu, comporte un juste milieu. On peut pécher par excès avec cette pudeur. Bon, c'est ce qu'on appellerait la pudibonderie. Bon, c'est une espèce de puritanisme. Bon, vous souriez parce qu'effectivement, je crois que c'est moins à redouter de nos jours. Oh, ma chère, j'ai vu votre cheville. Bon. Bon, là, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on n'en est pas là. Bien. Par contre, notre excès, par défaut, c'est ce qu'on appelle un manque de pudeur. Alors là, je crois que malheureusement, c'est quand même plus fréquent aujourd'hui. Alors, il existe une pudeur quand même instinctive, hein, qui est cette disposition naturelle qui constitue le meilleur fondement de la vertu. C'est vrai qu'il existe cette pudeur instinctive. Alors, comme toute vertu, eh bien, il faut la pratiquer et la cultiver. Et je pense que cette vertu est à former dès le plus jeune âge des enfants. Donc, je crois qu'il faut vraiment veiller à l'éducation de la pudeur chez l'enfant. Important. Déjà, quand l'enfant, on lui apprend à bien tenir sa fourchette, on lui apprend les règles pour bien manger, à se débrouiller avec une cuillère, ne pas en mettre partout, enfin bref. On va lui apprendre petit à petit à marcher, etc. Eh bien, la même chose dans ce domaine-là. Il faut lui apprendre aussi bien certaines choses, comment se tenir, etc. Et je pense que ce n'est pas un luxe de rappeler des règles qui paraissent pourtant tellement évidentes, mais bon, vous savez, comme prêtre, on en entend pas mal. Donc, à la limite, on s'étonne plus de rien, mais enfin, il faut quand même faire attention. Bon, vous voyez. Même ensuite, c'est pareil, il y en a des enfants qui vont être peut-être plus tendance à avoir cette pudeur naturelle. Il y en a qui l'ont peut-être plus ou moins, ça je pense que c'est vrai. Mais après, il y a vraiment l'éducation. Vous voyez, à l'école, bien sûr, on surveille les études, mais on surveille aussi les dortoirs. Eh bien, on le voit tout de suite. On voit tout de suite les garçons. Bon, c'était les garçons, évidemment. Il y en a qui ont cette vertu, et on voit il y a une éducation derrière, on le voit très bien. Puis il y en a d'autres, il faut qu'à la limite, c'est à nous de leur apprendre de la pudeur, quoi. Voilà. Et alors qu'on voit visiblement, il doit y avoir un manque dans la famille. C'est clair, nous on le voit, si vous voulez, quand vous avez, je sais pas quoi, 50, une centaine d'enfants, c'est clair que ça se voit tout de suite, l'éducation. Puis il faut du bon sens quand même. Et, enfin bon. Je ne vais pas trop vous choquer parce que je vous dis, on en entend des vertes et des pas mûres. Enfin, des choses toutes simples, enfin, je sais pas, ça me paraît vraiment évident. Enfin, les parents ne se baignent pas avec les enfants, enfin, on ne prend pas son bain avec les enfants. Enfin, et là, juste anecdote, je me rappelle un ménage, donc un ménage qui justement cherchait à louer une maison, il me l'avait dit. Il dit, ouais, bon, on visite une maison avec le propriétaire, etc. Bon, ils nous font visiter, puis on arrive à la salle de bain. Alors, salle de bain, grande salle de bain, et puis ils m'ont dit, oh, on tombe, et une énorme baignoire. Ah, et, ah bon, qu'est-ce que c'est? Le propriétaire, alors, lui dit, ah oui, vous savez, voyez, cette baignoire, oui, on prend notre bain en famille, puis on a la vue sur la fenêtre, vous voyez, on a le jardin, on a les arbres, comme ça, on communie avec la nature. Bien. Alors, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais non, un peu de bon sens. C'est pas comme ça que vous allez apprendre la pudeur à vos enfants, ça c'est clair. Et aussi dans une autre famille, enfin, une autre famille, pourtant, bon, enfin, je vous dis, ils venaient à la messe. Hein, ah oui, alors une fois la mère de famille qui me dit, ah oui, là vraiment, je crois qu'il va falloir que je mette un verrou à la salle de bain, parce que ma fille commence à se plaindre quand même, son petit frère vient toujours l'embêter quand elle prend son bain. Alors la fille avait 12-13 ans. Et le garçon, je sais pas, avait 8 ans, quelque chose comme ça. Comment voulez-vous éduquer à la pudeur si vous permettez de telles choses? C'est pas possible. C'est pas possible. Bref, passons. Et les missionnaires, Monseigneur Lefebvre, je crois, ou c'est lui, ou alors le père Marzac, je ne sais plus, qui disait, voyez, quand on était en mission, eh bien, on reconnaissait un village païen et un village chrétien. Eh bien, c'était facile. Le village chrétien, c'était le village où les gens étaient habillés. Et le village païen, ben, c'est là, ils n'étaient pas habillés. Parce que précisément, ben, par la vertu chrétienne, ben, on leur apprenait à cette vertu de pudeur, si vous voulez. Et là, revenait toujours, enfin, on va avoir d'autres exemples, toujours les conséquences du péché originel, si vous voulez. Hein, il ne faut pas vivre dans le beau paradis, etc. Non, non, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Alors, vous avez le père Calmel, qui a un très beau texte là-dessus. Bon, j'en cite juste une partie. Comme la prise de conscience personnelle est grandement aidée par l'éducation, que les mères de famille se rendent compte enfin avec leurs tout-petits que la pureté commence à cet âge-là. Elles se préparent ou déjà se détruisent par les habitudes qu'on leur donne de se tenir ou de s'habiller. Il ne s'agit pas d'être bégueule. Il s'agit de savoir que dans les attitudes qu'on fait prendre ou qu'on laisse prendre au tout petit enfant, le vice ou la vertu sont déjà tracés et préformés, notamment l'impureté ou la pudeur. Vous avez Mgr Castromaillère aussi qui a fait un catéchisme des vérités opportunes qui s'oppose aux erreurs contemporaines. Bon, ça a été publié, si vous voulez, au sel, enfin le sel de la terre à vriller. Donc toujours dans ce domaine-là, voilà. Donc il fait une partie l'erreur, une partie la vérité, puis une explication. Alors voilà le slogan qu'on entend et qu'il rapporte ainsi. On ne doit pas critiquer les personnes qui se présentent fardées, décolletées, en manches courtes ou jupes courtes pour recevoir la communion. Ce serait manquer à la charité que de leur refuser les sacrements, puisque ces personnes n'y mettent aucune malice. Si ce n'était pas le cas, elles ne se présenteraient pas ainsi à l'Église. De plus, voir de la malice en toute chose, c'est blâmer Dieu lui-même, créateur du corps humain. Alors, vous êtes d'accord ou pas d'accord? Alors, l'autre partie. L'Église déconseille le fard et interdit les décolletés trop marqués, l'absence de manches, le fait de se découvrir les jambes, etc. Les fidèles doivent être instruits de la doctrine de l'Église catholique sur ce point, car le corps humain, après le péché originel, est devenu esclave de la concupiscence, et toute imprudence en cette matière est pour le moins dangereuse. Et puis ensuite, il y a toute l'explication. Donc effectivement, le corps humain est bon en soi, comme toute créature de Dieu. L'obligation qu'a l'homme de ne pas l'exposer ne vient pas du corps humain, tel que Dieu l'a créé, mais du dérèglement des instincts, conséquence du péché originel. Il faut toujours revenir là-dessus. C'est pourquoi l'Église recommande une grande modestie dans l'habillement. La sensation de honte causée par l'exhibition immodeste du corps humain ne peut être appelée malice, mais pudeur. Car faire la différence entre le bien et le mal, loin d'être un défaut, est au contraire le fondement de toutes les vertus. Par conséquent, réprimander les personnes qui s'habillent avec immodestie, c'est exciter en elles non pas la malice, mais la vertu. C'est pourquoi la législation de l'Église oblige les prêtres à refuser les sacrements aux personnes qui se présentent de manière immodeste. La proposition réfutée considère la question comme si l'humanité n'était pas dans l'état de nature déchue. Par ailleurs, elle nie l'existence d'un bien et d'un mal objectif. Dans les cas concrets, le mal ne se trouverait pas dans un fait objectif, l'immodestie du vêtement, mais plutôt dans l'état d'âme subjectif de celui qui voit dans la nudité une immoralité. Une application concrète montrera jusqu'à quel point la sentence réfutée s'oppose au véritable esprit de l'Église. Les saints se sont toujours distingués par leur extrême délicatesse à percevoir et à rejeter tout ce qui s'oppose, même de loin, à la vertu angélique. Tandis que l'Église voit là un raffinement de pudeur, pour les tenants de la proposition erronée, ce serait un raffinement de malice. Donc effectivement, il faut peut-être rectifier certaines choses. Alors si vous dites, bon, c'est qu'un évêque, alors passons au pape. Alors passons à Pie XII. Alors, vous voyez, il s'adresse non pas à des hommes, mais c'est un discours à la jeunesse féminine d'Action catholique du 22 mai 1941. Voilà ce qu'il dit. Si pour un simple plaisir personnel, nul a le droit de mettre en péril la vie corporelle des autres, n'est-il pas encore moins licite de compromettre le salut, donc la vie même de leur âme? Si, comme le prétendent certaines, une mode audacieuse ne produit sur elles aucune impression mauvaise, que savent-elles de l'impression que les autres en ressentent? Qui les assure que les autres n'en retirent pas de mauvaises incitations? Vous ne connaissez pas le fond de la fragilité humaine, ni de quel sang corrompu ruissellent les blessures laissées dans la nature par le péché d'Adam. Et même le pape en revient là-dessus. Oh, combien justement on a observé que si certaines chrétiennes soupçonnaient les tentations et les chutes qu'elles causent chez les autres par leur toilette et les familiarités auxquelles, dans leur légèreté, elles accordent si peu d'importance, elles s'épouvanteraient de leurs responsabilités. À quoi nous n'hésitons pas à ajouter, ô mères chrétiennes, si vous saviez quel avenir d'angoisse et de périls intérieurs, de doutes mal réprimés, de honte mal contenue vous préparez à vos fils et à vos filles, en les accoutumant imprudemment à vivre à peine couverts, en leur faisant perdre le sens délicat de la modestie, vous rougiriez de vous-même et vous redouteriez la honte que vous faites à vous-même et le tort que vous causez à ces enfants que le ciel vous a confiés pour les élever chrétiennement. Et ce que nous disons aux mères, nous le répétons à un nombre de femmes croyantes et même pieuses, qui, en acceptant de suivre telle ou telle mode audacieuse, font tomber par leur exemple les dernières hésitations qui retiennent une foule de leurs sœurs loin de cette mode qui pourra devenir pour elles une cause de ruine spirituelle. Tant que certaines toilettes provocantes demeurent le triste privilège de femmes de réputation douteuse, et comme le signe qui les fait reconnaître, on n'osera pas les adopter pour soi. Mais le jour où ces toilettes apparaissent portées par des personnes au-dessus de tout soupçon, on n'hésitera plus à suivre le courant, un courant qui entraînera peut-être aux pires chutes. Ah, c'est très bien vu. Et on est en 1941. Donc en 2009, qu'est-ce que dirait le pape? Bref, si vous ne comprenez pas cela, si vous trouvez que l'Église est trop dure, eh bien c'est qu'on vit dans une époque de naturisme qui a oublié le péché originel. Les conséquences, ce dogme tout simplement. Alors essayons toujours de bien pratiquer donc cette vertu de tempérance. Et pour que la victoire soit complète, eh bien, non seulement renoncer bien sûr aux plaisirs mauvais, ce qui est de précepte, mais aussi sacrifier les plaisirs dangereux qui conduisent presque infailliblement au péché. Celui qui aime le péril y périra. Bien plus, de temps en temps, bien, il faut savoir se priver de plaisirs licites afin d'affermir notre volonté contre la traite du plaisir défendu. Parce que quiconque, en effet, goûte sans restriction toutes les délectations permises est bien prêt de glisser en celles qui ne le sont pas. Et oui, il faut quand même former notre volonté. Ah oui, ça c'est permis, mais si on n'a pas ce désir de modérer, même ses plaisirs permis, eh bien, on va tomber vite, facilement, dans les plaisirs défendus. Alors, pour cela, concrètement, bien, sachez profiter des jours de pénitence de l'Église. Par exemple, les vendredis, déjà, savoir se priver de certaines choses tous les vendredis. Bon, déjà, il y a l'abstinence. Bien sûr, les temps de pénitence, l'Avent, le temps de carême, les quatre temps. Donc, vous voyez, tout ça, profiter de ces moments-là, pour effectivement vous habituer à faire quelques pénitences. Ensuite, donc après cette première concupiscence, la concupiscence des yeux. Bon, celle-ci comprend deux choses, ce qu'on appellerait la curiosité malsaine, et l'amour désordonné des biens de la terre. Bon, la curiosité dont il est ici question, c'est le désir immodéré de voir, d'entendre, de connaître ce qui se passe dans le monde, non pour en tirer un profit spirituel, mais pour jouir de cette connaissance frivole. Alors, vraiment au courant de tous les potins. La concierge. Ah, c'est ça. C'est, en gros, c'est la concierge. Ah, vous avez appris ça, gna gna, tiens, il y a ça qui est pas. Oh, si, on m'a dit que, nanana. Enfin, bon, bref. Et tout ça, bien sûr, ça entraîne le bavardage. Et dans le bavardage, eh bien, ça entraîne eh bien, les manques de charité. Ça peut aller jusqu'aux médisances, aux calomnies, etc. Et puis attention, ça peut entraîner aussi aux partialités dans les jugements. Alors évidemment, vous avez une, si on parle des qualités féminines, eh bien, il y a, vous avez effectivement beaucoup plus que les hommes, ce qu'on appelle une intelligence intuitive. Vous êtes beaucoup plus intuitive que les hommes, c'est vrai. Les hommes sont plus raisonneurs. Mais c'est merveilleux, parce que cela, quand on voit effectivement avec les enfants, je veux dire, on voit bien que le bon Dieu vous a donné ça vraiment pour les enfants. Avec cette intuition que vous avez, vous voyez tout de suite comment, bah, que faire, comment vous comporter avec les enfants, etc. Ça, c'est bien. Mais il y a aussi le défaut. C'est-à-dire que le défaut pourrait dire, bah, si quelqu'un d'emblée vous plaît, c'est comme ça que vous sentez, ah, il a toutes les qualités. Et puis par contre, si vous voyez quelque chose qui déplaît, alors il y a tous les défauts. Ah, il n'y a pas de milieu. Ah non, celui-là, ah non, je ne supporte pas. Ah non, celui-là, alors il y a toutes les qualités, les biens. Et puis, bref. Hein. Donc, attention, hein, savoir se tenir en garde. Bon, attention à cette curiosité. Ça, c'est vrai que ça peut entraîner comme ça à beaucoup de, ensuite, de comportements qui sont faux. Ensuite, c'est l'amour désordonné de l'argent. Bon, la concupiscence des yeux, effectivement, des biens, les bijoux, la garde-robe innombrable, enfin bref. Hein, donc, bah, savoir se modérer, évidemment. Alors, le remède pour combattre cette curiosité, cet amour désordonné de l'argent, eh bien, se rappeler que ce qui n'est pas éternel est indigne de fixer et retenir l'attention d'êtres immortels comme nous. La figure de ce monde passe, Dieu seul demeure. Toujours se rappeler ça. Et puis, pour les biens, eh bien, sachez que vous laisserez votre garde-robe ici-bas. D'autres en profiteront. Alors, sachez bien faire l'aumône, donner aux bonnes œuvres, c'est à savoir se détacher des biens de ce monde. Bien sûr, gérer votre budget familial, ça c'est clair, il faut le faire. C'est évident, ne dilapidez pas comme ça. Mais regardez, cherchez avant tout le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par surcroît. Ensuite, Saint Jean parlait de l'orgueil de la vie. Donc cet orgueil de la vie, eh bien, se traduit par la vanité, la coquetterie. Ça aussi, on peut être pris par là. Alors quand vous êtes tenté un peu dans ce domaine-là, rappelez-vous ce livre des Proverbes dans la Sainte Écriture, c'est au chapitre 31, verset 30. On le lit, c'est l'épître que nous lisons dans la messe des Saintes Femmes. Et vous avez cette phrase, « Trompeuse est la grâce, vaine est la beauté, la femme qui craint le Seigneur, celle-là est digne de louange. » Très belle phrase. « Trompeuse est la grâce, vaine est la beauté, la femme qui craint le Seigneur, celle-là est digne de louange. » Donc là aussi, quand on est tenté de trop s'admirer devant le miroir, eh bien, dites-vous, est-ce que vous occupez autant de votre âme ? Que de l'écorce, que de votre corps. Est-ce que je m'occupe aussi de mon âme? Alors là aussi, Pape Pie XII, dans un autre discours, au Congrès des œuvres de la protection de la jeune fille en 1948, voilà ce qu'il dit. « En dépit de sa désinvolture et parfois même de sa mentalité masculine, la jeune fille, qualifiée de moderne, garde, bon gré mal gré, les caractères innés, indélébiles de son sexe, son imagination, sa sensibilité, sa tendance, sinon à la vanité puérile, du moins assez souvent à la coquetterie plus périlleuse. Elle se laisse prendre au piège quand elle ne s'y jette pas d'elle-même tête baissée. Elle a l'illusion de l'expérience et se croit de ce chef supérieur aux jeunes filles des générations passées. Sous des dehors plus avertis, elle est souvent en réalité moins solidement instruite. Son expérience est superficielle, suffisante pour ternir sa délicatesse et sa fraîcheur, insuffisante pour la tenir en garde contre les roueries et les hypocrisies des séducteurs. Son expérience est aussi surtout négative, et elle ne lui découvre ni la grandeur, ni la beauté, ni les saines et robustes joies du rôle qui la réclame dans la famille et dans la société. Illusion de solidité et de force, illusion d'expérience et de prudence. L'une et l'autre sont l'aliment d'une présomption à laquelle la nature, même bien guidée, n'est que trop portée. Elle croit pouvoir impunément tout lire, tout voir, tout essayer, tout goûter. À seulement entendre ou deviner un conseil, elle se cabre. Le simple soupçon d'une protection la révolte. Protection, cela signifie à ses yeux humiliation et asservissement. Elle ne se doute pas du besoin qu'elle en a pour la sauvegarde de sa dignité féminine et de sa noble fierté, pour son affranchissement de toutes les séductions, tromperies, flatteries dont elle est inconsciemment la dupe et l'esclave. C'est vraiment bien vu. Ça c'est... Par expérience, hein, peut-être vous, par expérience, vous l'avez peut-être passé ça. C'est vrai qu'on le voit aussi chez des jeunes filles, hein, exactement. Ah ben non, je suis assez grande, je sais me débrouiller, etc. Les pauvres. Donc attention. Hein, ça, c'est la racine, c'est la coquetterie, c'est la vanité, c'est l'orgueil, tout simplement. Alors cet orgueil aussi peut entraîner, bien sûr, susceptibilité, jalousie. Donc si on en a parlé, la jalousie, bah, voyez plutôt le bien de Dieu. Tout le bien vient de Dieu, donc plutôt que jalouser quelqu'un. Pardon difficile, on pardonne difficilement parce qu'on est orgueilleuse. Volonté de vengeance, manque de franchise, etc. Même en confession, ça peut aller jusque-là. Donc attention à cet orgueil, évidemment. L'orgueil aussi sur quelque chose de très simple. Vous voyez, par exemple, la tête couverte à l'église. Alors, c'est des trucs, généralement, ça fait... Bon, c'est un sujet sur lequel on peut se pencher, se repencher, discuter, rediscuter. Non, comment ça, je ne suis pas une musulmane, etc. D'abord, si vous lire saint Paul, moi je ne l'ai pas apporté là, vous pouvez le lire, prenez les références si vous voulez, c'est 1 aux Corinthiens, chapitre 11. Vous allez voir qu'est-ce que dit saint Paul, il n'y va pas de main morte. Hein. Donc sur la femme qui doit être couverte à l'église. Bref, donc c'est déjà... Par définition, c'est une tradition qui remonte à l'âge apostolique, si vous voulez. Donc déjà se dire, ah ben nous, maintenant, on est 21e siècle, on n'a que faire des traditions apostoliques. Bon, déjà, ça montre déjà notre humilité que de dire ça. Et puis une raison, je vois, toute simple, à mon avis, pour comprendre le pourquoi, c'est exactement la même raison qui fait que les hommes doivent être découverts à l'Église. Et c'est la même raison pourquoi les femmes doivent être couvertes à l'église. La raison, elle est simple, c'est l'humilité. Vous voyez que l'homme doit se découvrir. Donc effectivement, vous apprenez à vos garçons, vous enlevez votre casquette, votre bonnet, etc. quand vous rentrez dans une église. Bon, pourquoi ? Eh bien, par souci d'humilité. Même si c'est un peu perdu, si vous voulez, on ne voit plus, mais autrefois, pour un homme, être couvert, porter un chapeau, était une marque d'autorité. Et regardez dans l'Église, vous avez un seul... Bon, si vous voulez, c'est vrai, bon, c'est tombé en désuétude aussi, vous aviez le prêtre qui avait la barrette. Bon, mais quand il arrivait à l'autel, il se découvrait. Ensuite, maintenant, on voit plus, quand vous assistez à une messe pontificale, eh bien, vous vous rendez compte que l'évêque, lui, reste couvert. Et il y a un seul moment où il se découvre de tout. C'est-à-dire, non seulement il n'a plus la mitre, bon, quand il est assis au trône, quand il prêche, il a sa mitre, mais autrement, quand il est à l'autel, il garde quand même sa calotte. Eh bien, vous verrez, il y a un moment où il enlève sa calotte. Donc, il se découvre complètement. Eh bien, c'est au début du canon, donc à la préface, si vous voulez, jusqu'à ce qu'il ait consommé, jusqu'à la fin de la communion. Parce qu'il y a le Saint-Sacrement sur l'autel, ou qui va être sur l'autel. Dans ce cas-là, il se découvre par signe d'humilité. Donc, vous voyez, un homme doit être découvert par signe d'humilité quand il rentre dans une église. Eh bien, vous... C'est la même raison, mais en inverse. Pourquoi signe d'humilité ? Eh bien, parce que la nature vous a pourvu d'une chevelure que vous pouvez parer, dont vous pouvez avoir une certaine fierté, Et donc peut-être, effectivement, avoir une certaine recherche dans cette chevelure et qui fait que vous pourriez briller aux yeux des autres dans l'église. Enfin bref, vous arrivez, eh bien on va couvrir cette chevelure qui pourrait être signe de vanité, parce qu'il y a Dieu qui est présent dans l'église. Donc tout simplement, par signe d'humilité, ben oui, vous couvrez ces atouts que vous a donné la nature, que vous a donné le bon Dieu, oui, par signe d'humilité, tout simplement. Donc n'allez pas. Bon, après, il y a plutôt d'autres raisons, mais déjà rien que celle-ci, ben non, je me couvre effectivement, c'est un signe d'humilité devant Dieu. Bref, donc maintenant, c'est bon, vous avez compris, donc plus besoin de le répéter. Bref, enfin, le remède à toute cette concupiscence, en tout cas, savoir tout rapporter à Dieu, en reconnaissant qu'il est l'auteur de tout bien. Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ça, c'est Saint Paul, première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Toutes nos actions doivent tendre à la gloire de Dieu, tout simplement. Voilà pour cette première partie, mais je pense que la deuxième va être plus courte. Deuxième partie, lutte contre le monde. Donc le monde, c'est sous ceux qui sont opposés à Jésus-Christ et qui sont esclaves de la triple concupiscence dont nous venons de parler. Alors, eh bien, il y a le danger du monde. Le danger du monde en tant qu'il va nous séduire. Le monde nous séduit. Il nous séduit par ses maximes qui sont opposées à celles de l'Évangile. En effet, le monde, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vante le bonheur des riches. Le but, c'est d'être riche. Il vante le bonheur des forts, des violents, des parvenus, des ambitieux. Que chacun vive sa vie. Il faut bien que jeunesse se passe. Il faut bien gagner sa vie. Ah, si on était scrupuleux en affaires, on ne pourrait jamais s'enrichir. Tous ces slogans, vous les connaissez. Ben non, il faut bien vivre sa vie, etc. Oh ben oui, jeunesse passera, donc profitez-en, tant qu'on est jeune. Donc ça, il nous séduit par toutes ces maximes. Il nous séduit par l'étalage de ses vanités, de ses plaisirs, de ses réunions mondaines pour flatter la curiosité, la sensualité, même la volupté. Bon, c'est le cas des danses, par exemple, attention à ça. On a l'impression que certaines danses ne semblent avoir d'autre but que de favoriser des regards lascifs, des enlacements sensuels, etc. Donc attention. Bon, bien sûr, il y a une danse qui est bonne. Bon, la danse, je sais pas qu'on voit, folklorique, il y a tout un art, savoir dominer son corps, être gracieux. Bon, ça, c'est vrai, ça existe, il y a une belle chose. Mais quand on pense danse aujourd'hui, c'est pas ça. D'abord, c'est complètement. Enfin, je sais pas, moi, c'est pas beau, c'est laid. Enfin, c'est. Et puis, enfin, ce bruit, enfin, qu'ils appellent musique, non, c'est. Je vois pas où est la beauté. Sincèrement, je. Non. Bref. Alors, non. Hein, et est-ce que les gens sortent meilleurs de ce qu'on appelait autrefois les bals, qu'on appelle aujourd'hui discothèques, ou qu'on peut appeler rallye. Rallye, c'est discothèque plutôt confinée. Non. Est-ce que les gens sortent meilleurs? Est-ce que notre âme s'est élevée? Est-ce qu'on est content de s'être retrouvé entre amis? Est-ce qu'on a la conscience pure quand on sort de cela? Eh bien, demandez aux prêtres, aux confesseurs. Bon, qu'on se retrouve entre amis, bien sûr, il faut le faire, il faut se retrouver entre amis. Mais on peut se détendre d'une manière, je veux dire, tout à fait légitime, saine, tout à fait saine, oui. Pas obligé d'andiner, et puis. Enfin bref. Et puis aussi, le monde, eh bien, va nous séduire, bien sûr, par bon, le cinéma, attention, la télévision. La télévision. Bon, je pense que c'est quasiment impossible aujourd'hui de regarder la télévision sans être blessé dans la vertu. Ça, c'est. J'imagine, enfin, ça n'a pas dû s'améliorer, mais les publicités, les films, téléfilms, je sais pas quoi, je pense que c'est pas possible. En plus, la télévision, c'est vraiment un pur instrument de loisir. Donc là, on peut s'en passer, mais sans aucun problème. Sachez la supprimer par pitié pour les enfants, ça c'est clair. Et puis maintenant, j'allais dire, il y a un autre problème, eh bien c'est celui d'Internet. Alors là, ça devient beaucoup plus subtil. Parce que Internet, bon, j'allais dire l'ordinateur, c'est à la fois un instrument de travail,
Donc il faut reconnaître qu'on ne peut pas s'en passer. Bon, le monde, malheureusement, il est fait comme ça aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Et aussi, c'est un aspect de loisir. Et c'est un loisir dangereux. Alors, comment faire? Alors, comme ça, bon, bientôt la fin. Je vous conseille, le dernier, il y a un dernier numéro de Fidélitaire qui vient de sortir, La pieuvre Internet. C'est très bien fait. C'est le numéro 190 de juillet-août 2009. Donc, vous voyez, il vient de sortir. Mais il est bon que vous le lisiez et de le faire lire. Parce que, bon, on regarde l'ensemble, c'est tout un dossier. Donc, on regarde ce qui est bon, la nécessité, et puis, évidemment, ce qui est moins bon. Donc, il faut évidemment de la discipline. Là, je parle pour des adultes. Donc, il faut de la discipline. À savoir, oui, bon, je l'utilise parce que mon travail m'oblige, etc. Et puis, il y a certaines choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans Internet, ça, c'est clair. Mais ensuite, tout ce qui est loisir, c'est trop dangereux, je ne l'utilise pas. Je mets de côté, on fait autre chose. En revanche, pour les enfants et les adolescents, j'allais dire non, non. C'est vraiment... Mais je ne pense pas que vous vous rendiez compte. Mais comme c'est dangereux. Et nous, vraiment, comme confesseurs, comment on en voit, pour eux, c'est une occasion prochaine de péché. Et de péché grave. C'est évident. Quand certains vous disent que plus de 80-90% d'Internet, des sites, c'est de la pornographie. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas demander à l'héroïsme, à des enfants, à des adolescents, d'utiliser ça sans être tenté d'aller voir ce qu'il ne faut pas voir. Alors, juste quand même, c'est pour vous donner peut-être... Enfin bon, vous pourrez lire par vous-même, mais il y a des choses quand même effarantes. Donc ça ne vient pas de nous, ce n'est pas nous qui avons fait ces sondages, hein, donc c'est complètement indépendant de nous. Donc les sondages, ça vient de, je sais pas quoi, Xavier Darcos, c'est pas un ministre lui? Oui, c'est ça. Hein. 8 conseils pour protéger vos enfants sur Internet, ou le 2008, donc il n'est pas spécialement réputé traditionnaliste. Hein. Et puis vous avez d'autres livres, je ne sais pas, La Croix, Valeur Actuelle, etc., qu'on fait des sondages donc, sur les jeunes, pratique d'Internet, durée de la pratique. 96% des adolescents surfent sur Internet tous les jours. 45% des enfants de 6 à 11 ans consacrent plus de la moitié de leur temps de loisirs aux écrans, télévision, Internet, jeux vidéo. Les jeunes de 16 à 20 ans passent en moyenne 4h17, oui c'est précis, par jour devant les écrans. Conséquence immédiate. 90% des enfants ont été confrontés au moins une fois à des contenus choquants, violents ou à caractère pornographique sur Internet. 90%. 87% des enfants de moins de 14 ans ont vu au moins une fois sur le net des images pornographiques. 42% des jeunes de 10 à 17 ans ont consulté un site pornographique au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Et parmi eux, les deux tiers y ont accédé par hasard. Déjà, ces chiffres-là, ça vous laisse froid dans le dos, si vous voulez. Alors, vous avez aussi, je passe, achetez-le, il est vraiment... Et pourtant, j'ai aucune action dans Fidélitaire. Intéressant, il y a un témoignage d'un père de famille. Réflexion d'un père de famille. Balayons les arguments du type « pouvons-nous nous déconnecter complètement de nos contemporains ?» Car s'il ne faut en rien se déconnecter d'eux, on justifiera tous les comportements. Venons-en à la question essentielle. Internet dans ma maison, sera-t-il un obstacle ou une aide pour l'éducation catholique de mes enfants? Effectivement, voilà la vraie question. Si Internet est indispensable à la maison pour des raisons professionnelles, le bon Dieu donnera les grâces nécessaires si on le limite à cet usage et qu'on a soin d'en interdire concrètement l'accès, point. Et s'il ne l'est pas, c'est-à-dire s'il n'est pas indispensable pour des raisons professionnelles. Certains parents diront, c'est pratique, je garde Internet, mais je le surveille par un logiciel de contrôle parental. Chers parents, si l'on nous disait, 20% des yaourts actuellement sur le marché sont empoisonnés, mais les 80% restants sont excellents. Qui d'entre nous, père et mère de famille, continuerait à faire manger des yaourts à ses enfants sous prétexte qu'il y en a 80% d'excellents? Eh bien, parents chrétiens, sachez que seulement, et là il cite ce fameux monsieur Darcos, 75 à 88% des contenus inadaptés pour les adolescents, pornographie, jeux d'argent, violence, sont filtrés par les logiciels de contrôle parental. Fermez les guillemets. Il y a donc entre 12 et 25% de poison en libre circulation. Ainsi, le risque que nous n'admettrions pas pour la santé physique de nos enfants, le yaourt empoisonné, nous n'admettrions avec Internet chez nous pour leur santé morale, violence, pornographie, etc. N'est-ce pas l'inverse des paroles de notre Seigneur ? Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt ceux qui peuvent faire périr corps et âme dans la chaîne. Le chef de famille qui aura introduit Internet sous son toit est responsable devant Dieu de tous les péchés qui seront commis par ses fils et ses filles à cause de l'écran. Tout ce qui risque de choquer un enfant n'a pas sa place à la maison. Si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait qu'on lui suspendît au cou une meule de moulin et qu'on le précipitât dans les profondeurs de la mer. Ne pas avoir Internet chez soi n'implique pas de ne pas en parler avec ses enfants. Il faut leur expliquer le pourquoi de son absence pour le bien de leur âme et les avertir de ses dangers. Et si d'aventure un besoin ponctuel s'en faisait sentir, rares sont les lieux de travail qui n'en sont pas équipés et le chef de famille pourra alors le satisfaire. Assunta, la mère de Sainte Maria Goretti, interrogée, répondait « Je lui ai donné l'horreur du péché, Dieu a fait le reste. » Peut-on donner l'horreur du péché, surtout dans le domaine de la pureté, si l'on en fournit en même temps l'occasion prochaine? Et si renoncer à un Internet est un gros sacrifice, pourquoi ne pas l'offrir pour nos enfants? Leur âme vaut tous les sacrifices. Et après, ben, vous trouverez des Internet à la maison. Quel conseil? Premier conseil, ne pas avoir Internet chez soi. Si d'aventure ce conseil n'est pas suivi, en voici d'autres. Et puis, alors vous en avez, bon, se fixer, etc. Passer l'ordinateur dans une salle de passage. Contrôler l'accès par des mots de passe, un meuble fermant à clé. Interdire aux enfants et aux adolescents l'accès à Internet. Installer un logiciel de contrôle parental, bon, sans vous faire d'illusions sur le filtre, parfait. Etc. Ensuite, voilà, un cinquième point. Que les épouses ne laissent pas leur mari passer leur soirée ou leur nuit devant l'ordinateur. Sa chère allée. Comment c'est, et toi, tu me laisses seule avec les enfants, occupe-toi de tes enfants, etc. Là, vous pouvez râler quand même. Hein. D'accord. Ensuite, que les maris ne laissent pas leurs épouses brûler leur temps sur des forums et des blogs. Que les parents voient Internet et l'ordinateur comme des outils d'une satisfaction totalement disproportionnée avec la simplicité et l'âge de l'enfant, etc. Puis vous regarderez vous-même les autres conseils. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Bien. Ensuite, ça, le temps passe, c'est vrai. Bon, j'aurais voulu évoquer un peu bon, le problème de la mode, mais je pense que on vous en a assez parlé, donc attention au péché de scandale, bien sûr, dans ce domaine. Donc là, vous avez entendu le pape Pie XII en parler tout à l'heure. Donc attention de ne pas être une occasion de tentation pour les autres, surtout pour les hommes. Et puis, j'allais dire, quand même, tant pis, hein, vous accepterez que je sois un peu plus long. Il y a quand même quelque chose de très intéressant. Vous voyez, on est dans un monde de folie, si vous voulez. Ce monde de folie aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de dignité de la femme, de l'égalité de la femme et de l'homme, etc. Eh bien, jamais la femme n'a été plus considérée que comme un objet. Vous voyez toutes les violences qui sont faites justement au monde féminin, c'est absurde. Enfin, précisément, la raison elle est simple, c'est qu'on a écarté Dieu tout simplement. Hein, où Dieu, eh bien, chacun est à sa place. La seule égalité qui existe, c'est celle devant Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu, tout à fait. Mais après, Dieu nous a tous créés différemment. Et l'inégalité ne veut pas dire injustice. Chacun a sa place voulue par Dieu, et c'est là où nous serons parfaitement heureux. Mais justement, il faut voir pourquoi on en est là aujourd'hui, dans un tel désordre. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Et c'est très intéressant de voir depuis surtout la Révolution française, en gros, disons depuis le 18e, 19e, 20e, eh bien, comment progressivement les ennemis de l'Église ont institué fait des discours pour arriver là où on en est aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas fini. Je pense qu'on va encore descendre encore plus. Alors, c'est intéressant de voir, par exemple, la haute vente. Donc, vous savez que c'est la franc-maçonnerie Société secrète italienne. Le 18 janvier 1822, donc ce n'est pas d'hier,
Voilà ce qu'il disait. L'essentiel est d'isoler l'homme de sa famille, de lui en faire perdre les mœurs. Après l'avoir séparé de sa femme et de ses enfants, et lui avoir montré combien sont pénibles tous les devoirs, vous lui inculquerez le désir d'une autre existence. Quand vous aurez insinué dans quelques âmes le dégoût de la famille et de la religion, laissez tomber certains mots qui provoquent le désir d'être affilié à la loge la plus voisine. Vous voyez, déjà détacher l'homme de sa famille. Ensuite, déjà en 1870, on préconise la limitation de la natalité par l'usage de méthodes contraceptives. Donc cela commence à apparaître, 1870. Le 17 novembre 1875, un franc-maçon, un certain colonel Olcott et une certaine Madame Blavatsky créent la Société théosophique avec un cercle d'occultistes. Madame Blavatsky accumulait les blasphèmes, tout comme elle poursuivait de sa haine l'Église catholique. Le plan d'action pour ce travail de sape était le suivant. Écoutez, 1875. Le culte de la déesse mère et de la pratique des vertus femelles n'existant guère qu'aux Indes et au Tibet, il fallait mettre à la mode la religion hindoue. Et d'abord, ranimer la religion bouddhiste en Inde et en Extrême-Orient et s'employer à la libération des peuples orientaux. Deuxièmement, le mouvement théosophique étant à lui seul trop faible pour s'attaquer avec efficacité aux religions chrétiennes, musulmanes et juives, il fallait utiliser un appareil occulte puissant, la franc-maçonnerie, pour lutter contre le dieu mâle en s'en prenant aux prêtres et à l'Église. Troisièmement, il était indispensable d'ouvrir l'Occident aux doctrines bouddhistes, d'y introduire la pratique du yoga, d'intéresser le public au mystère de l'Orient. Quatrièmement, pour lutter contre la suprématie mâle, il était nécessaire par la parole et par l'écrit de répandre des idées opposées aux principes masculins, de défendre la paix universelle, de condamner la guerre, de prôner l'égalité des sexes, de rendre la femme libre de son corps. 1875. 1878. Franc-maçon qui dit, à propos de la maçonnerie, ce qu'elle veut conquérir avant tout, c'est la femme, parce qu'elle est la dernière forteresse que l'esprit d'obscurantisme, donc la religion, oppose au progrès humain. Oui, il veut dire, bah oui, parce que la femme dans le foyer, elle est gardante des vertus, etc. Donc, ils ont bien vu, il faut s'attaquer à la femme. Bon, je passe un peu, on arrive en 1896. Donc, les francs-maçons font une ligue de la régénération humaine, moyen d'éviter les grandes familles, périodique qui s'appelle régénération. Et là, on commence déjà à vendre, excusez-moi, des préservatifs, on commence... à préparer une agence pour union libre, un syndicat de prostituées, faire des conférences, etc., pour prêcher la contraception. 1911, Madeleine Pelletier, médecin, lance un appel pour la liberté de l'avortement. Et ensuite, elle publie un ouvrage, Émancipation sexuelle de la femme, en 1911. Le droit de la femme à l'amour physique hors du mariage et le droit à l'avortement. L'enfant qui est né est un individu, mais le fœtus au sein de l'utérus n'en est pas un, il fait partie du corps de la mère. En 1911. Et puis en 1919, pareil, les communistes faire disparaître toutes les lois réfrénant l'obscénité en les appelant une censure et une violation de la liberté de parole et de presse. Abaisser les normes morales en poussant la pornographie et l'obscénité dans les livres, les journaux illustrés, le cinéma. Présenter l'homosexualité et la promiscuité des sexes comme normales, naturelles et bonnes pour la santé. Discréditer la famille comme institution, favoriser l'amour libre et faciliter le divorce. Mettre en relief la nécessité d'élever des enfants loin de l'influence limitative des enfants. Des parents, pardon. Attribuer les préjugés, les blocages et les retards des enfants à l'influence répressive des parents. On est en 1919. Et en 1920, cette chère Margaret Sanger dans Woman on the New Race, l'acte le plus charitable qu'une famille nombreuse puisse faire en faveur de l'un de ses membres en bas âge, c'est de le tuer. Donc, vous voyez, on n'a pas que des amis. Hein. Eh bien, ça vous explique un peu où on en est arrivé, si vous voulez, cette corruption un peu universelle. Bref, alors ne soyons pas terrorisés par le monde, si vous voulez, hein, par tout cela. Non, sachons regarder tout simplement, encore nous remettre. Les remettre, c'est toujours se remettre en face de l'éternité, si vous voulez. Regarder le monde à la lumière de la foi. Vraiment, opposition entre le monde et Jésus-Christ. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas être une femme chrétienne, une femme mondaine, ce n'est pas possible.
Et Jésus est la sagesse infaillible. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Et c'est le monde qui se trompe. Alors sachons, bien tout simplement, relire souvent les évangiles. Sachons éviter toutes les occasions dangereuses, les fausses amitiés, les amitiés mondaines, non. On est obligé, bien sûr, de se mêler au monde, dans une certaine mesure, c'est vrai, mais on doit se préserver de l'esprit du monde, en vivant dans le monde comme en n'étant pas du monde. C'est ce que nous demande notre Seigneur. Alors, en conclusion, bien, rappelons-nous toujours, effectivement, que la vie chrétienne est une lutte, un combat spirituel. Il faut toujours déraciner en nous ce qu'on appelle le vieil homme pour laisser croître l'homme nouveau. Alors tout cela se fera bien avec la grâce de Dieu que l'on reçoit, bien sûr, par la prière, les sacrements, surtout les sacrements de pénitence, la Sainte Eucharistie. Ne nous décourageons pas de la longueur du combat, c'est vrai, et confions-nous toujours, bien sûr, à la Sainte Vierge, modèle par excellence de la femme chrétienne, et bien que la Sainte Vierge vous aide à faire triompher en vous toujours davantage cette femme chrétienne au détriment de la femme mondaine.